Chalie m'était contée. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Revenons donc aujourd'hui sur cette histoire de Gilles Mallet et de Charles V. Donc le roi Charles V qui vient très souvent à Chalie et surtout qui va s'occuper en quelque sorte de la restauration de l'abbaye de Chalie. Mais le personnage qui nous intéresse, et nous sommes interrompus lors de notre dernière émission en posant la question, est-ce que ce fameux personnage qui se nomme Gilles Mallet a été inhumé avec sa femme à Chalie, vous le saurez bientôt. Eh bien non, on ne sait pas. On ne sait pas si, effectivement, il a été inhumé à Chalie. Tout ce qu'on sait, c'est que la dalle gravée de Chalie, relevée par Gagnère, était située à droite de l'autel de la chapelle de la Trinité. On connaît l'emplacement, hein, c'est une des chapelles latérales sud de l'abbatiale. C'est la quatrième chapelle à droite en entrant. Pour les visiteurs qui viendront nous voir, ils peuvent se repérer. On a encore trois chapelles qui sont bien visibles. Et d'autre part, j'ai eu la chance, évidemment, il faut toujours avoir un peu de chance, de trouver dans les archives eh bien, une description très précise de l'église, ceci en 1792. Et effectivement, comme le dit ce texte médiéval, eh bien, c'est bien dans cette chapelle de la Trinité que a été déposée, accrochée, posée, on ne sait pas trop, cette fameuse plaque. En tous les cas, selon Eugène Lefebvre-Pontalis, qui est un historien très sérieux, n'est-ce pas, on peut lui faire confiance, il nous dit que Gilles Mallet, sur cette pierre, porte l'armure de plate avec l'or. Je ne vais pas rentrer dans les détails du harnachement du chevalier du Moyen-Âge, mais il est équipé avec les coudières, les genouillères, les solerets, hein, ces chaussures bien particulières à pointe. Il a les pieds posés sur un lion. Il décrit ses armes, d'hermine à deux faces de gueule. Je vous rappelle que ce qu'on appelle gueule avec un S, c'est tout simplement la couleur rouge pour nous. Sa femme est vêtue d'un surcot serré à la taille, aux longues manches tombantes avec un trou à la place de la tête par la suite de la disparition de la plaque de marbre qui la figurait. Donc, exit, n'est-ce pas, la tête de madame. Elle portait de gueule à trois coquilles d'or, à trois faces de gueule accompagnées de besan. Je vais très vite, simplement, on est en présence d'une dame d'une grande famille, la famille des Chambly, évidemment, qui a donné d'illustres personnages, et entre autres le fameux Adam de Chambly, qui lui a bien été inhumé dans l'église abbatiale de Chalie. Alors, on va parler maintenant un petit peu plus de notre fameux Gilles Mallet. On ne connaît pas tout à fait les origines de Gilles Mallet, on ne connaît même pas sa date de naissance. On sait simplement que, compte tenu de ses qualités, il va être mis à la tête de la librairie de Charles V. Charles V, qu'on appelle, comme vous le savez, le sage. Et Gilles Mallet, petit à petit, par ses mariages, entre autres, va s'élever progressivement dans la société. Il a épousé d'abord Pernelle de Gorian, fille de Jean, vicomte de Corbeil. Et puis, on va le retrouver en 1369, qualifié de garde de la tour carrée de Corbeil. Il fait alors l'acquisition du domaine de Soisy, qui n'est pas très loin, qu'il achète à Jean de Marine. Après le décès de sa première épouse, eh bien, il fait d'autres affaires en se mariant la même année avec Nicole de Chambly, que je viens d'évoquer, dame de Rutel-les-Maux, fille de Pierre XII. Oh, son surnom, c'était Gros Mouton, mort à Poitiers, comme beaucoup, évidemment, de la féodalité française en 1356. La maison de Chambly avait, je le disais à l'instant, beaucoup d'étroites relations avec Senlis, avec Chalie. Hein. Au début du XVIIIe, au milieu du sanctuaire de l'église abbatiale, on a retrouvé en partie l'emplacement du tombeau, qu'on nous dit qu'il reposait sur quatre lions. Hein. Et à cet endroit-là, on a retrouvé, faut-il croire que c'est la bonne, eh bien, on a retrouvé une crosse magnifique qui correspond complètement à la chronologie, hein, c'est-à-dire à la période pendant laquelle a vécu notre évêque de Senlis, Adam de Chambly. Et cette crosse en émaux de Limoges, vous pouvez l'admirer dans le musée de Chalie. Hein. Elle fait partie des objets d'art qu'on nous demande très souvent. Alors, se pose quand même encore une question, là je diverge un petit peu, c'est qu'en général, on n'enterrait pas les évêques ou même les abbés avec ce qu'il y avait de mieux dans leur trésor. Parce que les trésors, ils étaient par la suite vendus, ils étaient donnés, et donc on n'inhumait pas avec des objets précieux. Donc on s'interroge, voilà. Bon. Il y a quand même l'épitaphe qui est assez intéressante, qui est écrite en français. Elle est la suivante. « Qui pour moi priera, bon loyer en aura. » Vous voyez ? C'était un signe d'une certaine pertinence, entre guillemets, commerciale. Bien. Alors, si on revient à notre Gilles Mallet, on se rend compte qu'à la suite de différents aveux, il se rend seigneur de certaines zones de Chantilly, qui correspondent au fief de Guy de Laval ou de Pierre d'Orgemont. Il possède aussi des biens à Paris. Il achète des biens à Pont-Sainte-Maxence, qui mouvait aussi de la seigneurie de Chantilly. En 1380, il reçoit du roi Charles V l'office de châtelain et capitaine du château de Beaumont-sur-Oise. Et il va pouvoir en jouir toute la vie durant, mais aussi il va récupérer des gages qui ne sont pas négligeables, c'est environ 300 livres tournois par an. Puis ensuite, on va retrouver seigneur de château, et puis enfin, il va devenir le maître d'hôtel du roi, en même temps qu'il est seigneur de Vitebec, de Soisy, de Château, de Balagny, près de Senlis. On va le retrouver possesseur de terres à Fontenay-lès-Louvres. Il possède aussi d'autres terres au Ménil, près de Pont-Sainte-Maxence. Enfin, vous voyez que petit à petit, il a su faire carrière, mais il a su s'enrichir. Mais il a su aussi, surtout, faire d'une pertinence assez extraordinaire pour organiser la librairie. C'est peut-être donc, tout simplement, en Gilles Mallet qu'il faut voir le premier organisateur de la Bibliothèque nationale de France. Et d'ailleurs, sur les anciens bâtiments de la BNF, figure son nom. Donc, cette reconnaissance a perduré jusqu'à nos jours. On connaît son sceau. Enfin, on en connaît au moins un. Il est rond. Il fait 25 mm, nous dit-on. Il est facé d'hermine. Bon, c'est normal. On va retrouver aussi un aume cimé de deux clés entre deux cornes. Deux cornes et supporté par deux chèvres. Ne me demandez pas, évidemment, s'il y avait une signification symbolique. En tous les cas, la légende est claire. Sel, Gilles Mallet, sel, S-E-E-L, tu veux dire seulement le sceau. Alors, dans son règne, Charles V, revenant au roi, se rend à plusieurs reprises à Chély, accompagné de Gilles Mallet, et il fait opérer d'importantes réparations dans l'habit. Le chiffre et les armes du roi sont alors peints sur les piles du transept sud de l'abbatiale, à côté du rappel des grandes dates de l'histoire de l'abbaye entre 1137 et 1219. Nous aurons l'occasion ultérieurement de retrouver ce texte. On nous dit d'ailleurs qu'on a suspendu un tableau peint sur bois où est narrée donc la fondation de l'abbaye en 12 épisodes disposés sur 12 colonnes et ses commentaires sont écrits selon un poème mais en langue française. Donc nous aurons l'occasion de découvrir ce texte un petit peu plus tard. Alors, la mémoire de Charles V est particulièrement vénérée dans l'abbatiale. Comme je viens de vous le dire, de nombreux hobbies sont donnés solennellement. Je vous rappelle que c'est les messes des morts. Donc, c'est pour le salut de l'âme de Charles V. Les moines s'engagent à dire des prières correspondant à des dates bien précises. On peut noter que les armoiries de l'abbaye de Chély ne sont pas sans ressembler aux armoiries royales de Charles V. Car celui-ci, dès 1365, remplace souvent le semis de fleurs de lys. Vous voyez, l'ancien écu de France, c'était donc effectivement un écu azur, un bleu en quelque sorte, sur lequel il y avait de nombreuses fleurs de lys éparses. Voilà pourquoi on prend le mot de semis. Et il va remplacer progressivement ce semis par trois fleurs de lys or posées en deux et un. Or, l'abbaye de Chély suit exactement ce blasonnement, à savoir sur un faux azur, trois fleurs de lys or posées donc en un, avec en abîme, c'est-à-dire au centre, pour simplifier les choses, un cas d'argent. Cas d'argent, ça veut dire un cas noir. L'argent, c'est en héraldique la couleur noire. Cas, Carolinopolis, le lieu de Charles, tout simplement, c'est le nom de l'abbaye. Dans d'autres représentations, d'ailleurs, le blason est parfois surmonté d'une crosse ou d'une mitre abbatiale. Mais dans le roman de la fleur de lys, qui était datée de 1338. Vous vous souvenez, nous avons parlé de Guillaume de Digulville, ce fameux moine de Chaly et écrivain qui a passé sa vie d'ailleurs à Chaly. Il installait déjà ses trois fleurs de lys sur les armoiries royales. Et d'ailleurs, on va y retrouver lors de la découverte de manuscrits enluminés. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails. Ce n'est pas hasard non plus si la chapelle était la chapelle de la Trinité. Trois fleurs, c'est bien le signe trinitaire qui marque le règne de Charles V. Signe trinitaire qui marque également, on le verra, Gilles Mallet, qui va multiplier les fondations à chaque fois dans les chapelles dédiées à la Trinité. Dernier témoignage d'amitié donné par le roi à Gilles Mallet, le jour même de sa mort, le 16 septembre 1380, le roi Charles V désigne Gilles Mallet comme son exécuteur testamentaire. C'est une preuve véritablement d'une confiance tout à fait remarquable. Alors, notons quand même qu'il n'y a pas forcément un exécuteur unique. En tous les cas, il fait partie des exécuteurs testamentaires. Sa compétence en tant que libraire, j'ai failli dire bibliothécaire. Je pense qu'on peut distinguer bien les deux. Je vous rappelle, bibliothécaire, ça vient de Bible. C'est-à-dire, c'est une série de livres qui concernent la Bible. Et à cette époque, on emploie à juste titre la librairie qui désigne donc les livres. Plus tard, après la mort du roi, d'ailleurs, quelques semaines plus tard, Jean de Berry et Philippe de Bourgogne, qui sont les oncles du roi, reconnaissent la justesse des comptes de Gilles Mallet et sa compétence. Autrement dit, Charles V va le conforter dans ses fonctions de garde de la librairie et dans celle de conseiller et maître-lait de la Chambre des comptes. Alors, peut-être faut-il s'arrêter un petit peu sur la librairie de Charles le Sage, le premier roi véritablement lettré de tradition française. Dans la première salle, car je vous rappelle que cette librairie, on l'a vu lors de notre dernière émission, elle a été installée dans une tour du Louvre. Dans la première salle, donc, on va trouver dans cette tour les plus beaux livres, ceux qu'on va montrer aux invités. Ils sont traduits en français pour la plupart et traduits à la demande du roi. Donc on a une volonté aussi, vous voyez, de vulgarisation en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va laisser de côté la langue latine latine, comme on dit, la plus souvent usitée. Et on va mettre, en quelque sorte, à disposition des lecteurs, ils ne sont pas très nombreux, il faut le dire, en tous les cas, des ouvrages en langue française. Ce sont souvent des livres sur la politique qui mettent en évidence la prééminence royale et son rôle. Vous voyez, c'est important, il faut que le roi marque son territoire, surtout en cette époque troublée. Ça, c'est pour la première pièce, celle de réception. Dans la pièce au-dessus, sont conservés des livres de médecine, des romans d'aventure, des romans de la Rose, il y en a plusieurs. À l'étage supérieur, par contre, on va trouver surtout des livres en latin. Alors, ça peut être des textes des Pères de l'Église, mais aussi des ouvrages dédiés aux sciences, comme les mathématiques, la géométrie, l'astronomie. D'ailleurs, Charles V avait un attrait tout particulier pour l'astrologie, et d'une façon générale, pour tous les arts divinatoires. Malgré les remarques d'un des érudits de sa cour, qui s'appelle Nicolas Rem, qui est un de ses grands traducteurs. Eh bien, nous étions au Louvre lors de notre dernière émission. Nous étions au Louvre dans la librairie de Charles V. Donc, notons que c'est véritablement, et je le répète, un roi qui avait à l'origine de la Bibliothèque nationale de France avec son chef, en quelque sorte, Gilles Mallet, et qui est vraiment le roi intellectuel, on pourrait le dire. Il fait acheter de nombreux livres. Alors, les livres, ça coûte une fortune, ça coûte plus que nous coûterait une voiture de luxe actuellement. Un manuscrit, c'est plus que... Je ne veux pas citer de marque, mais enfin, vous voyez de quel type de marque je veux parler. Donc, il fait acheter, il fait traduire. Là aussi, vous vous souvenez, on avait insisté sur le fait qu'il faut que ces textes soient accessibles. Et il fait copier aussi par de grands calligraphes les ouvrages qu'il ne peut pas conserver de par lui-même. Et il n'oublie pas, par ailleurs, évidemment, de développer hein, la reproduction, en quelque sorte, la production des ateliers d'enlumineurs qui vont se multiplier à Paris tout au long de son règne. Le 21 mai 1372, alors qu'il est à Chély, le roi adresse cette lettre qui montre tout l'intérêt que le roi porte à la philosophie grecque, et en particulier à Aristote. Je ferai quand même une petite remarque à propos d'Aristote. L'Aristote médiéval est très complexe à appréhender. C'est pas l'Aristote de l'Antiquité. Je serais tenté de dire il y a des Aristotes. Hein. On va en quelque sorte manipuler les textes d'Aristote. Et ce n'est pas une relation directe avec la littérature antique. Alors voilà ce qu'il écrit à propos d'Aristote.
De par le roi Jean d'Orléans, nous faisons translater à notre bien-aimé le doyen de Rouen, maître Nicole Orem, deux livres, lesquels nous sont très nécessaires et pour cause, c'est à savoir politique et économique, et pour ce que nous savons, que le dit maître Nicole a à se faire grand peine et grande diligence, et qu'il convient que pour ce, il délaisse tous ses autres œuvres et besognes quelconques. Voulons que, pour sa dicte peine, et aussi pour ce qu'il y entende, elle laisse toute autre besogne, quelle qu'elle soit, vous lui bailliez et délivrez tantôt et sans nul délai la somme de 200 francs d'or. Si gardez sur tout l'amour que vous avez à nous et le plaisir que vous désirez nous faire, et si cher que vous doutez encourir notre indignation.
Voilà, c'est à la fois assez complexe, mais en même temps, bravo pour la lecture, hein mais en même temps très clair. À savoir, donc, il écrit à un des, ce qu'on appellera plus tard un humaniste, hein, donc, qui connaît bien le grec et le latin. Et il écrit à Nicole Orem et il lui dit, ben, en gros, mettez-vous au travail tout de suite. Oui. Hein. Vous faites ce que vous voulez, mais vous arrêtez tout et vous occupez de mon cas, en quelque sorte. Hein. Voilà ce qu'il lui demande. Mais par ailleurs, une belle rétribution, hein. 200 francs or, ça n'est pas rien. Oui. Et alors cette lettre nous intéresse aussi, puisqu'elle se termine par « Donner en l'abbaye de Chély, jour de mai ». Et puis il insiste quand même, gardez-vous quand même de nous courroucer. Hein. Autrement dit, c'est une piqûre de rappel, en quelque sorte. Il dit à Nicole Orem, eh bien, ne nous mettez pas en colère en ne nous obéissant pas. Oui. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Et il signe Charles. Alors, il va continuer, d'ailleurs, à occuper, à employer des copistes ou des traducteurs. Il y en a un qui est assez célèbre à cette période. C'est Houdin de Carvanet. Et ces traducteurs se permettent d'ailleurs, dans la tradition médiévale, d'ajouter parfois un texte de leur composition. Vous savez, sur les manuscrits médiévales, je vous en avais parlé, ce qu'on aime bien, c'est regarder ce qu'on appelle les colophons, c'est-à-dire les petites phrases que le scribe se permet d'ajouter à la fin du texte ou dans une marge, hein, qui exprime un peu sa réaction, hein, du genre, toi qui prends ce manuscrit, je crois que j'avais cité cet exemple, si tu crois que c'est facile d'écrire, lave-toi les mains, c'est une souffrance d'écrire, parce qu'il n'y a peut-être que trois doigts qui travaillent, mais c'est tout le corps entier qui souffre. Voilà. Donc là, on est un peu dans cette tradition, hein, qui se perpétue. Et voici donc un petit texte que va ajouter Houdin de Carvanet, hein, à un manuscrit qu'on lui avait demandé, évidemment, de copier.
« Si après commence une oraison de Notre-Dame, que celui qui écrit ce livre fit. Ô très glorieuse Marie, Vierge, de Dieu, Mère et Amie, Dame des cieux et de tous les anges, joie de tous saints et archanges, notre confort, notre espérance, Dame, faites-nous délivrance, enfin de mots, si que puissions connaître en réception, au point de la mort, votre Fils. Reine puissante de qui, jadis, vint Théophile, votre ami, acquitté du faux ennemi, nous recommandons, très chère dame, à vous notre corps et notre âme, ici, tant comme sommes en vie. Amen, chacun de nous en dit. »
Voilà. Alors, bon, c'est tout simplement un poème qui semble être un poème à la gloire de Marie, hein, ce qui ne serait pas étonnant dans une abbaye cistercienne, bien sûr. Mais c'est surtout une recommandation du roi de France à Marie, hein. Reine toute puissante, en gros, il faut absolument aider. Nous vous recommandons, Théophile, celui aimé de Dieu, hein, le roi de France. Il s'agit là, évidemment, d'un texte géographique, hein, qui va dans le sens de la protection royale. Mais on va retrouver parfois d'autres notes, comme ça. Puisque j'avais parlé du pèlerinage de l'âme de Guillaume de Digulville, eh bien, on va retrouver d'autres signatures. Ici finit le pèlerinage de l'âme, et signé Robert d'Orléans, etc., etc. Donc, on n'hésite pas à intervenir, je dirais, et à laisser son signe, hein, sa signature, son signe, sur les manuscrits, même s'ils sont de très grande valeur. À la mort du roi, que va-t-il advenir de la librairie ? Alors là, on a plusieurs témoignages. On nous dit qu'elle est dans un grand encombrement. Alors, est-ce que c'est le désordre ? Est-ce que c'est la quantité de livres ? Je serais plutôt tenté que c'est effectivement la quantité de livres extrêmement importante qui s'accumule dans ces différentes pièces qui justifie un tel qualificatif. En tous les cas, Gilles n'est pas le dernier à augmenter la librairie royale. Et il note avec précision, hein, sur le catalogue des ouvrages, il note ceux qu'il offre au roi. Donc ça suppose déjà un bon revenu, des bonnes connaissances, des bonnes relations. Et on retrouve pas moins de 24 titres inscrits dans l'inventaire du Louvre avec la mention donnée par Gilles Mallet. Donc vous voyez qu'il est en mettant en quelque sorte, on dirait maintenant, un mécène ou encore pire, un sponsor. Mécène, c'est plus joli, avouez. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il lui a donné ? C'est assez varié. Il est noté un très beau livre grand où sont les 5 livres de Moïse, un très beau psautier en très grand volume. Évidemment, la taille est importante. Plus la taille du manuscrit, du parchemin est grande, évidemment, plus ça coûte cher. À côté, il y a un petit livret plat en latin, nommé Bestiaire, un livre des miracles, un livre de la vie de Monseigneur Saint-Louis, des chroniques de France, des prophéties de Notre-Dame, etc., etc. Certains sont en français, d'autres en français rimé, d'autres en latin et en prose. En tous les cas, le duc et la duchesse d'Orléans était reconnaissante à Gilles Mallet pour son office de maître d'hôtel. Valentine Visconti, hein, puisque c'est la duchesse d'Orléans que je viens d'évoquer, on en reparlera beaucoup plus tard, puisque c'est l'arrière-grand-mère d'un certain roi qui s'appelle François Ier. Hein, voilà. Alors, ils sont tellement contents des services du maître d'hôtel que le duc lui offre 200 francs. Et par la suite, il va le nommer Verdier de la forêt de Carnel. La forêt de Carnel, c'est pas loin de Montmorency, vous voyez là, ce coin. Verdier, on peut dire, c'est responsable des eaux et forêts. Hein. Mais aussi, il va le nommer concierge de son hôtel d'Anières. Il fait des affaires, Gilles Mallet. Il achète, il vend, par exemple, il vend 300 francs or à un petit livre en 2 volumes. Et en échange, peut-être, la duchesse lui offre un nappe de vermeil, et quelques mois plus tard, un anneau d'or à offrir comme cadeau de noces à une des belles-filles de Gilles Mallet. Vous voyez, donc, les rapports sont très cordiaux. Hein. N'oublions pas qu'au siècle dernier, l'enluminure prévaut sur le texte et chacun de la découper pour en faire une œuvre d'art hors contexte. Oui, je m'arrête un petit peu parce qu'il y a eu une manie au XIXe siècle, quand on retrouvait quand le Moyen-Âge revenait à la mode, faut le dire. Et quand on retrouvait ces manuscrits, on avait tendance à découper carrément l'enluminure. Et ben, le musée Marmottan, on en a pas mal comme ça. Hein. C'est une erreur, parce qu'il y a un rapport qui existe, bien entendu, même si ces enluminures sont parfois de véritables tableaux, il y a un rapport direct entre l'image et le texte. Et mutiler ces manuscrits médiévaux, c'est comme si vous preniez une bande dessinée à laquelle vous tenez beaucoup, vous découpez les dessins, vous enlevez toutes les bulles, enfin, tous les phylactères. C'est la même chose. Hein. Donc, les exposer hors de leur environnement textuel en affaiblit considérablement le message. Je dirais que c'est un peu la même chose, mais ça, c'est une réaction personnelle. Quand je vois que certains indélicats achètent des ouvrages avec des gravures, avec des aquarelles, et puis dépenaillent l'ouvrage et revendent feuille à feuille les dessins, les cartes, etc. Bon, c'est quelque chose qui, sur le plan émotionnel, me choque toujours. Hein. Bien, alors, continuons un petit peu. Quand on parle de Chaly et de Charles V, à évoquer ces relations privilégiées entre les moines de Chaly et le roi de France. On a un lettré, on peut dire, qui est responsable actuellement aux Archives nationales de France, qui s'appelle Ghislain Brunel, qui a fait une étude très intéressante sur la charte de l'abbé de Chaly adressée au roi Charles V. Elle est datée de 1379, un an avant la mort du roi. Ouais. C'est un manuscrit de très, très belle, de très grande beauté. Ça commence par un très grand S, c'est une initiale sur fond d'or, qui va structurer toute la page. Et il est entouré d'un coffre fleur de lysée en or sur fond azur. Vous êtes habitué évidemment à ces armes de l'abbaye royale. Peu de temps, là je fais une petite incise, c'est peu de temps avant sa mort, une enlumineur de l'inventaire de tous les joyaux, tant d'or comme d'argent de Charles Quint. Souvent vous verrez dans les manuscrits Charles Quint, ne vous trompez pas, il ne s'agit pas du Charles Quint qui va s'opposer à François Ier réciproquement, ça veut dire tout simplement Charles Quint, Charles V, hein, c'est le roi français. On va le représenter lui aussi sous un dais sommé d'un écusson couronné avec trois fleurs de lys. Hein. Nous verrons dans la prochaine émission le contenu de cette charte qui est tout à fait étonnant et bien sûr ça met en valeur évidemment l'abbaye, mais plus encore l'installation d'une royauté absolue qui sont véritablement les désirs des différents rois. Désirs qui ne seront pas accomplis, car vous le savez, évidemment, la royauté va connaître de graves difficultés, surtout la dynastie va connaître de graves difficultés. Voilà, et la prochaine fois, eh bien, nous rejoindrons Charles V et cette volonté d'affirmer le royaume de France et sa propre personne, et donc le pouvoir royal qui deviendra un peu plus tard absolu.